Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h49, Daniel Ayolo, Stéphane Guy. Et là, est-ce que Fred Hermel est parmi nous, Fred, bonsoir.
Bien sûr, hola chicos.
Fred, on a également un autre invité ce soir qui était avec nous pendant la Coupe du Monde à plusieurs reprises. Il s'appelle Cédric, il est là. C'est lui qui anime le fameux compte Foot Croate sur Twitter. Spécialiste du football croate.
Salut à tous.
Et donc d'un jour que tu connais bien.
Bon match de Modric ce soir qui joue pas beaucoup et il a bien fini le match, voilà.
Alors Cédric, t'aimes bien le foot croate. D'ailleurs, je vous invite à suivre le compte @footcroate sur Twitter. Vous aurez toutes les infos qu'il faut sur ce pays. Qui d'ailleurs va jouer la demi-finale de la Ligue des Nations, que Daniel suit avec passion.
Ça lui fera plaisir contre les Pays-Bas.
Contre les Pays-Bas en juin, c'est ça.
En juin et aux Pays-Bas en plus. Donc ça va être.
C'est quoi en juin? Qu'est-ce qui va se passer?
La Ligue des Nations, tu sais, ta compétition.
Ah d'accord. Ça continue ça alors?
Bah oui, plus que jamais.
Mais c'est quoi Croatie-Pays-Bas?
C'est la demi-finale.
Ah, demi-finale. Ah oui, mais de l'autre côté, il n'y a pas Italie-Espagne.
Espagne-Italie tout à
l'heure. Ah, c'est ça.
Oui. De le regarder celui-là quand même d'ailleurs.
La Ligue des Nations, d'abord, je vais demander à Nico Villas et Kevin Diaz le règlement. Et puis après, s'il n'y a qu'eux qui comprennent. Et puis après, si c'est intéressant, je regarde. Hein.
C'est un peu moins.
Tu vas regarder Italie-Espagne quand même.
Il vient de le dire, Fred. Tu dormais là ou quoi?
Je veux dire, tu vas regarder Italie-Espagne quand même.
Oui, mais on vient de le dire, troisième fois.
Oui, mais tu vas regarder Italie-Espagne.
Attention même. Parce que Cédric également est thésard.
Docteur même.
Docteur
désormais.
Monsieur le docteur.
Ah, ça veut dire qu'il a fini, il est docteur.
Quel était le sujet de ta thèse?
C'était en infocom sur la représentation audiovisuelle du football à l'ère numérique. Donc finalement, comment l'imagerie virtuelle et les données massives s'intègrent dans une histoire des médias, du football, à travers les médias. Parce qu'on parle beaucoup de l'histoire de la télé, mais aujourd'hui, même dans l'after, vous parlez régulièrement de la place des jeux vidéo, par exemple. Mm-hmm. Voilà, j'ai fait une thèse là-dessus qui essaye de comprendre les enjeux qu'on a par rapport au réel. Quelle image on a du match, quelle...
Donc t'es forcément arrivé à la conclusion que le VAR ça pouvait pas fonctionner.
Alors ça je le savais avant de faire la thèse, évidemment.
Parce qu'il avait écouté Daniel Riolo pour ça.
Et d'ailleurs je cite Daniel Riolo dans ma thèse, ce qui est assez formidable.
Mais tu fais un Infocom où?
À l'université Lyon 3, donc.
D'accord, parce que moi je l'ai fait à Lille 3, Infocom.
D'accord, bon ben on a un point commun.
Là, la thèse de Fred, c'était sur les cocktails Fred Hermel.
J'aimerais beaucoup la lire.
Je suis pas allé jusqu'à la thèse, mais je fais un DEA sur la vision de la France dans la presse quotidienne espagnole.
Ah, quand même.
Ouais.
Ce qui lui a valu l'ordre national du mérite, quand même, faut le savoir.
Ah oui.
Oh, oui, c'est pas pour ça. Mais
Et alors, juste sur le VAR, du coup, parce que t'as étudié l'image. Parce que nous, on dit toujours justement une image. De match à la télé n'est pas la réalité.
Oui. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous, d'ailleurs, monsieur Blachiszewski, qui fait partie du cadre théorique aussi de mon travail sur la représentation du football, la télévision. Je me place un petit peu dans ce cadre aussi, encore plus quand on analyse de l'imagerie virtuelle et des données, on voit que c'est pas la réalité. Et, c'est pas tout à fait comme la vidéo, mais il y a en effet, en tout cas, c'est dans le prolongement. Et si aujourd'hui on accepte la vidéo, on accepte, beaucoup de choses qui étaient encore inexistantes il y a 10 ans lorsqu'on suivait du football sur Internet.
Ouais, sauf que Stéphane, l'homme de télé, te dirait que c'est l'évolution de la technique qui fait que on a des outils désormais qui nous permettent de voir mieux le match. Je sais pas. Enfin,
alors, est-ce qu'on voit la réalité? C'est la question. On voit peut-être mieux le match, mais on voit des choses qu'on ne verrait pas au stade.
Tu es de ceux qui pensent qu'on construit la réalité, toi aussi.
C'est de l'hyper-réalité. C'est du simulacre pour Jean Baudrillard.
Ah, Baudrillard. Donc, ça me rappelle ma jeunesse.
Il y a pas de balance, Baudrillard.
D'accord, je pense que tu as raison. Hein.
Et
il y a un récit qui se construit avec la télé qui n'est pas forcément celui qu'on voit.
Non, mais on dit toujours que tu ne regardes pas un match de foot, tu regardes le match de foot que le réalisateur veut bien te montrer.
Les Cahiers du foot a fait beaucoup d'articles là-dessus à ce sujet, qui était très juste. Et finalement, on est tout à fait dans cette tendance, puisqu'on peut aujourd'hui, tout à fait, à travers les bases de données de certains jeux, à travers FIFA. Vous en parlez de temps en temps, de dire il est fort en passe, il est fort en tir, sans l'avoir jamais vu jouer en vrai. On a cette possibilité d'avoir une vision sur le réel grâce à tous ces dispositifs, mais ça questionne aussi sur le rapport qu'on a au match de football.
Ça c'est vrai, j'ai beaucoup testé sur des jeunes, sur mon fils et ses potes. Ils parlent de joueurs et tout, ils ont jamais vu jouer.
Ouais. Mmh. Bah, y a d'ailleurs des footballeurs qui sont devenus très célèbres grâce à Football Manager, mais ils sont jamais devenus forts en réalité. Il y a
pas. Mais moi, je me méfie toujours d'un avis constitué par rapport à l'image télé. C'est-à-dire que tant que j'ai pas vu, toi, on parlait tout à l'heure de Mofi.
Et ça, c'est un homme de télé qui te le dit.
Ce qu'il pensait de Mofi, parce que je suis pas sûr de l'avoir jamais vu jouer.
Au stade, tu veux dire.
Au stade. Mmh. Et donc, j'ai du mal, tant que j'ai pas vu un joueur dans un stade, à avoir une idée. Évidemment, on a une idée, hein, mais une idée construite et argumentée, c'est compliqué.
Et aujourd'hui, il y a même plus l'image, puisque c'est soit un avatar, c'est un jeu, soit c'est de la donnée plus ou moins brute. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que ça questionne beaucoup de choses.
Oui, puis tu peux demander ce que font maintenant les recruteurs, hein, d'avoir je sais pas tous les centres pied gauche de Mofi, tous les centres pied droit de Mofi,
ouais,
et donc de tout analyser. C'est forcément des données intéressantes et à prendre en compte, mais ça remplacera évidemment jamais la vision même du match.
Bon, donc l'After a un peu inspiré ta thèse. Alors.
Bah, tout à fait, ce que l'After a non seulement dans les remerciements. Donc parce que là je vous écoute depuis 15 ans, donc c'est un peu c'était un peu normal aussi que je vous cite, et puis voilà, comme je disais, je cite Daniel et même je cite Thibault Leplat, donc voilà, ah. Et par petites bribes il y a une petite touche de l'After, et même au-delà de ça voilà, on va dire que beaucoup de débats que vous faites ici, j'ai pu essayer de les développer moi avec ma vision Infocom finalement, puis voilà, j'espère que tout ça vous intéressera si éventuellement elle sera en ligne de toute façon très bientôt pour tout le monde.
Ah, tu me diras, on pourra relayer ça sur les réseaux sociaux pour ceux que le sujet passionne. Alors là, nous, du coup, on a essayé de regarder d'un œil le match que le réalisateur de Real Atlético voulait bien nous montrer.
Qui était horrible. Hein. Réalisateur qui était horrible. C'était télévision espagnole, ils n'ont plus l'habitude de faire les matchs et c'était horrible. La réalisation était exécrable.
Bon, parlons du match, parce que c'est le plus important tout de même.
Par rapport au débat qu'on a eu hier soir sur la toute-puissance du football anglais, ce soir, ça m'a redonné un petit peu de baume au cœur de voir un match de cette
compétitivité-là.
Ah ouais, Très mauvais Real. Un très mauvais Real en première période aussi parce que l'Atlético a été très offensif. Et quand ils sont ces joueurs-là, quand on les laisse jouer, ben c'est magnifique. Et en deuxième période, un Real qui s'est remis un peu à l'endroit. Mais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais quand même préciser la chose. Vous avez dit victoire 3-1 après prolongation, mais le match que fait Camavinga est exceptionnel. Parce que Camavinga, il démarre au milieu de terrain, milieu défensif, et il joue après la blessure de Mendy, de Fernand Mendy, il joue latéral gauche. Il était exceptionnel à ce poste-là. Vraiment, vous savez, on se foutait de la gueule de Deschamps en disant tiens.
Deschamps est un visionnaire en fait, Fred.
Peut-être latéral gauche, mais là ce soir, il a été excellent, vraiment. Enfin, Camavinga, il a eu une personnalité dans un match compliqué qui fait plaisir. Il est en train de grandir énormément, et je vous assure, à un poste qui est pas le sien, parce qu'il n'est pas fait pour être latéral gauche. Mais voilà, il est dans un, il joue beaucoup parce que comme Tchouaméni est blessé, il est titulaire à tous les matchs.
Pas sûr au final qu'il soit pas fait pour ça.
On va voir.
On sait pas. Hein.
Il va faire des matchs parce que Mendy est blessé.
C'est qui le numéro 2 au Real quand Mendy? Il y a un autre joueur.
C'est Odriozola, mais bon.
D'accord.
Quasiment pas, tu vois. Donc, alors il y a toujours Nacho, mais voilà. Donc, mais comme les latérales droits sont Vasquez et Carvajal sont blessés aussi. Non. Mais je suis persuadé que contre la Real Sociedad ce week-end, il va encore être latéral gauche, quoi. Donc, c'était un beau spectacle, c'était un bon derby. On va toujours faire le même reproche à Simeone, c'est-à-dire qu'après le 1-0. Il y a le moyen pour l'Atlético d'aller battre le Real, quoi. À 1-0, ça y est, il veut fermer la porte. Et contre le Real, quand tu veux fermer la porte, quand tu veux conserver un résultat, tu finis par te faire avoir, quoi.
Les demi-finales, c'est match aller-retour comme de coutume, là, ou ça a changé?
Exactement.
Ça
non, c'est match aller-retour. C'est-à-dire qu'en fait, tous les matchs sont matchs secs, sauf les demi-finales.
Et Bilbao s'est qualifié aussi ce soir.
Ouais.
Donc le troisième but de Vinicius, il est très, très important, alors, d'accord.
Pourquoi tu dis ça?
Non, il l'est pas. Parce que c'est match sec, là.
Ah, c'est match sec, pardon.
Oui,
c'est en quart de finale, pardon.
Oui. Et alors après, Vinicius, on en a parlé tout à l'heure au début de l'after, mais il y a eu ce truc spectacle horrible d'un mannequin de Vinicius pendu sur une route.
Mais pourquoi on voulait en parler lundi? On n'a plus le temps, la merde. Parce que lundi, je voulais t'en parler pourquoi toute l'Espagne est contre lui?
En fait, parce que Vinicius est un joueur qui énerve les autres parce qu'il est très bon. Puis
pas parce qu'il est noir, non, Fred, quand même.
Non.
C'est pas parce qu'il est bon. Il y en a d'autres des bons.
C'est son jeu.
Lui, il agace pour autre chose. Il est vraiment détesté partout.
Il agace pour autre chose. Il agace de par son jeu, parce que sa manière de dribbler, etc. Puis c'est un Brésilien, donc comme Neymar pouvait agacer, comme Ronaldinho pouvait agacer, ça c'est clair. En plus, il a eu souvent tendance, dès qu'on le touche, à se rebeller, c'est-à-dire qu'il accepte aucune faute sur lui. Il se trouve quand même que les chiffres sont clairs, le joueur qui subit le plus de fautes de tous les championnats, de tous les
parce qu'il est un peu chouineur, quoi.
Il est un peu chouineur, etc. Et puis en plus, le Real est le club préféré d'Espagne, mais c'est aussi le club le plus détesté d'Espagne. Il est un peu la vision, il est un peu le mec qui énerve du club le plus détesté d'Espagne. Tu vois, donc ceux qui détestent le Real détestent Vinicius. Donc ça ajoute ça. Et puis il a un comportement, mais voilà, moi j'aime ce genre de joueur. Il est exceptionnel. Donc mais c'est vrai qu'il a ce petit parfois, c'est il chouine dès qu'on le touche, etc. Et Ancelotti lui a beaucoup parlé hein, pourtant de ça. Et donc il y a, et puis aussi, et je terminerai là-dessus. Il est un peu, il y a souvent
il
des
chambre
débats,
pas mal, il provoque pas mal, donc forcément ouais, retour,
mais il provoque
il prend,
de par son jeu. Mais le problème, c'est que la presse a un gros, il y a beaucoup de débats, la radio, la télé, vous et tout ça, et il y a beaucoup de débats autour de Vinicius, et ça excite un petit peu tout le monde en contre Vinicius. Les amis, bonne nuit.
On finit avec Survivor tout de suite.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Troisième tour du troisième Survivor de la saison. Vous pouvez jouer avec nous sur, bah non, t'as éliminé. Winamax.fr. 14 membres de l'After toujours en course. Encore 1178 parieurs avec nous. Alors, vous connaissez le principe de Survivor. Hein. Vous jouez un club, si votre club gagne, vous survivez. Il y en a 5 qui jouent Lyon, là, ce week-end. Vexio, Le Plat, Robert, Brown, Villas. Il y en a 3 qui jouent Strasbourg, des connaisseurs. Bribois, Tours et Dorian. 2 qui jouent Lens, qui va à 3. Loussaïev, Jamin. 2 qui jouent le PSG, qui reçoit Reims. Mémon et Courbis. Thomas joue Rennes, qui va à Lorient comme par hasard, et Maxime Latrubière, tenant du titre, joue Auxerre, qui reçoit Montpellier. Est-ce que Max sera encore le plus
fort? Quel panache chez Max de jouer Auxerre.
En effet. Merci Cédric d'être passé nous voir.
Merci Cédric. Nous éclairer sur le football croate.
Exactement.
Oui, en l'occurrence.
Bah voilà, bon, c'est pas grave.
On peut pas tout dire.
Hein, ouais, c'était très, intéressant.
En fait, tu as deux réalités, Cédric, c'est bon.
C'est ça, il y en a beaucoup. On pourra en reparler en juin prochain avec Daniel de la Ligue des Nations.
Exactement. Merci Cédric, merci Daniel, bonne nuit à tous.